Bien, bonjour à tous. Mon propos va être un petit peu décalé, puisque je ne suis pas du tout historien de l'art. Je suis vraiment, comme dit Corinne, un historien pur et dur. Donc, bon, encore qu'on pourrait discuter sur ces deux qualificatifs, mais mon propos, donc, c'est de revenir sur une photo que je pense tout le monde connaît, tout le monde a beaucoup vu. Et moi-même, ce qui m'a intéressé, ce qui m'a entraîné à travailler sur ce cliché, c'est tout d'abord une impression. L'impression, je ne sais pas si vous la partagez, j'ai l'impression que cette photo, on la voit beaucoup, et même j'ai eu l'impression pendant les 10-15 dernières années qu'on la voyait de plus en plus. Donc c'est ce travail que j'ai effectué sur cette photo de l'enfant juif de Varsovie est parti de cette interpellation, ce que j'appelle donc une présence très insistante. Et je vais vous montrer donc un certain nombre de récurrences, voilà quelques représentations. Je passe très vite, de toute façon on va y revenir ensuite. Mais vous voyez le nombre d'occurrences de ce cliché, outre la dernière occurrence qui est aussi la photo de couverture de mon livre, parce que figurez-vous que ce livre-là a eu aussi un effet sur la propagation de ce cliché, parce qu'à chaque compte-rendu de ce livre dans la presse, eh bien, on a republié à nouveau la photo. Donc en fait, si c'est une photo auquel quelqu'un avait pu échapper, ça devient maintenant quasiment impossible et improbable. Donc une des premières interrogations qui m'a porté, c'est celle de retrouver un petit peu, de refaire un petit peu l'histoire de ce cliché, de retourner à la source, au document source. Le document source, donc, il se trouve qu'il s'agit d'un album de 53 clichés, qui a été composé par un général SS, Jürgen Stroop. Jürgen Stroop, c'est quelqu'un qui est très connu, en tout cas pour les historiens qui travaillent sur la Seconde Guerre mondiale. C'est quelqu'un qui a sévi notamment en Grèce, mais il a également eu en charge la liquidation du ghetto de Varsovie au printemps 1943. On l'a appelé en toute urgence parce que en avril 43, lorsque Himmler a décidé la liquidation, ils se sont aperçus que les Juifs ne se laissaient pas faire et que ça devenait très compliqué de liquider le restant du ghetto. Et donc on a fait vraiment appel à un spécialiste, là aussi pur et dur. Donc ce cliché, vous allez voir, il n'est pas du tout un cliché isolé, c'est important à noter. Il fait partie d'une série. Cette série, je vais vous en montrer quelques clichés. C'est un document tout à fait exceptionnel. Trois exemplaires sont connus. Deux ont été retrouvés après la guerre. Alors, trois exemplaires, il y en avait un pour le supérieur direct de Stroop, le général Kruger, à Cracovie. Et puis, ensuite, un pour Himmler, le chef des chefs. Et puis, un autre pour lui-même, parce que Stroop, après la guerre, il n'était pas très lucide, donc au printemps 43, il pensait avoir une retraite assez studieuse, et il espérait, grâce à ses archives photographiques et à d'autres documents qu'il gardait par-devers lui, eh bien, il espérait pouvoir écrire la glorieuse histoire des SS, et notamment cette période, cette page glorieuse de la liquidation du ghetto de Varsovie. Ce sur quoi je voudrais insister, je ne vais pas aborder beaucoup de sujets, mais je voudrais vous montrer à quel point, à partir d'un document d'histoire qui est situé, qui est contextualisé, eh bien, il y a un certain nombre d'usages qui sont faits de ce document, d'inversions de sens, qui ne sont pas toutes d'ailleurs malveillantes, mais certaines le sont, et donc c'est une façon de réfléchir un petit peu sur l'usage du document photographique, qui est en soi, d'ailleurs c'est un document qui est très beau, c'est une très belle photographie, qui est très bien prise, qui est très bien cadrée, qui est très forte également. Et donc en cela, ça permet de réfléchir sur l'usage qui est fait donc de ce type de document, et notamment par nous, les historiens qui faisons des cours, qui faisons des ouvrages, qui illustrons des couvertures de livres, etc., etc. La première remarque que je ferai, c'est que nous avons affaire à un album composé en 1943 par un général SS, et donc nous avons ici un regard nazi, un document nazi au départ, qui est constitué, composé, pour glorifier le travail des SS. Alors, ce regard nazi, on peut le voir tout au long de ces 53 clichés, mais il y a deux ou trois clichés qui en témoignent plus que d'autres. Je les ai fléchés sur la photo. C'est donc deux photos, la photo 10 et photo 11. Est-ce qu'on distingue les numéros? Enfin, vous suivez les flèches, c'est là où on interroge des soi-disant rabbins juifs. Plus sûrement, il s'agit ici d'étudiants religieux qui sont donc arrêtés et questionnés par un groupe de SS. Il est important. Donc, ces photos interviennent au début de l'album. Elles permettent de situer le propos du général nazi, du général SS. On a bien affaire à une liquidation qui concerne des juifs. Et on voit ici, on retrouve des stéréotypes, des photos avec portant des stéréotypes du juif d'Europe centrale, d'Europe orientale, du juif religieux, la barbiche, les papillotes. Et puis, l'autre cliché où l'on voit ces deux hommes nus, dont l'un a une scoliose particulièrement prononcée, il faut savoir que toutes ces photos sont légendées, et la légende qui est sous ce cliché des deux hommes nus, eh bien, c'est la légende suivante, déchet de l'humanité. C'est-à-dire qu'ici, nous avons donc effectivement un album dans lequel le général pose quelques jalons, quelques signes qui renvoient à l'idéologie raciale, raciste des nazis. Les lecteurs, par exemple, d'un magazine ou d'un journal comme Der Stürmer, de Streicher, ne sont pas du tout dépaysés en revoyant cela. Ils retrouvent les fameux stéréotypes. Je continue. Voici donc, vous retrouvez ici en haut à droite la fameuse photo de l'enfant juif de Varsovie, avec donc une vingtaine d'acteurs, si je puis dire, des femmes, des enfants, quelques hommes, et puis des soldats SS qui accompagnent, qui surveillent, qui contrôlent la sortie d'un immeuble. Ce cliché, extrait de cet album, séparé de l'album, pourrait très bien se passer ailleurs. Or là, le fait qu'il soit dans cet album, eh bien, ça nous permet de contextualiser, ça nous permet de travailler sur la datation, la localisation de cette opération qui se passe sous nos yeux. J'ai titré un cliché nazi parmi d'autres à propos de cette photo de l'enfant, parce qu'il me semble que faire en sorte que des enfants se retrouvent à lever les bras devant des soldats en armes prêts à tirer, il me semble que ça aussi, ça renvoie à un regard tout à fait singulier sur ce que c'est que l'innocence, sur ce que c'est que l'enfance. Et d'ailleurs, l'usage qui est fait postérieurement à cet usage nazi de ces photos montre bien que on est choqué particulièrement par ce qui se passe sous nos yeux. Il n'est pas, en effet, très fréquent de voir des enfants, des petits garçons ou des petites filles lever les bras comme des malfaiteurs ou comme des prisonniers de guerre. Et ici, on sait qu'il ne s'agit pas d'un jeu. Donc c'est aussi une photographie qui témoigne de, à mon sens, du regard nazi porté sur le monde. Ici, on arrête des enfants, on les tue, on les déporte, on les incendie, on les brûle dans les maisons. Vous voyez aussi la violence de l'incendie de Varsovie, car pour évacuer le reste des habitants du ghetto, il a fallu, les Allemands ont eu recours à l'incendie bloc par bloc, maison par maison, étage par étage, pour évacuer tout le monde. Je passe plutôt à un agrandissement du cliché donc original, qui est au cœur de ce travail. Donc, vous voyez, ce qui permet d'être certain que cela se passe à Varsovie, c'est notamment le brassard qui est porté notamment par les femmes. C'est un brassard qui était imposé aux habitants du ghetto juif de Varsovie, un brassard blanc portant une étoile de David en principe bleu, alors que dans beaucoup d'autres contrées d'Europe, les juifs étaient tenus de porter une étoile jaune. Et puis, on peut également dater à peu près ce cliché. Bon, en tout cas, on peut le dater de la Seconde Guerre mondiale, puisqu'on retrouve les uniformes, l'armement, notamment les casques de cette période. Une autre vue de l'album, où l'on voit d'autres vues d'incendie, d'autres vues des dégâts causés par les Allemands. Vous voyez que ça a été une opération gigantesque. On voyait l'incendie de Varsovie pendant des jours et des jours, à des kilomètres à la ronde. Tout Varsovie, y compris la Varsovie chrétienne, était dans le brouillard de cendres et la fumée causée par l'incendie. On repère sur le cliché numéro 20 le commandant en chef de la liquidation du ghetto de Varsovie, à savoir le général SS Stroop. Précisément, maintenant, je vais en venir à une question qui intéresse beaucoup, enfin qui intéresse en premier lieu les historiens lorsqu'ils tombent sur un document, c'est d'essayer de le dater et de le contextualiser. Nous avons un certain nombre d'indices qui permettent d'attester que ce que l'on voit dans cet album date de la liquidation du ghetto de Varsovie en avril-mai 1943. Tout d'abord, la violence des incendies, qui est décrite par ailleurs et dont de nombreuses photos témoignent. Et puis, il y a l'identification d'un certain nombre de bourreaux. J'ai cité déjà le général SS Stroop. Et puis, il y a un autre SS qui est bien connu, c'est Joseph Blush, que l'on a déjà vu une fois, puisqu'il fait partie du groupe de SS qui interroge ces soi-disant rabbins juifs, ces étudiants juifs. Or, Blush, on sait, parce qu'il a été arrêté après la guerre en RDA, jugé et exécuté pour crimes contre l'humanité, notamment ses activités dans le ghetto de Varsovie au printemps 43. Blush, on le retrouve aussi sur la photo de l'enfant, et donc par ces croisements d'indices, nous pouvons attester que la photo a bien été prise en 1943 au moment de la liquidation du ghetto. D'autant plus que j'ai oublié de mettre une autre diapo, c'est pas grave, d'autant plus que sur un autre cliché, on voit Blush en compagnie du général SS, puisqu'il faisait partie aussi de la garde rapprochée du général Stroop. Et donc, à l'aide de tous ces indices croisés, eh bien, nous pouvons, je pense, affirmer que ce cliché a été pris au printemps 43. Pourquoi j'insiste là-dessus ? Eh bien, précisément parce que ça a été contesté, et d'une certaine manière, ça l'est toujours, puisqu'il faut savoir qu'il y a à peu près une dizaine de personnes qui se sont reconnues comme étant le petit garçon juif de Varsovie, et notamment une revendication qui a fait beaucoup de bruit en 1978, c'est la revendication d'un juif qui vivait à Londres, donc après la guerre, et qui s'est reconnu sur la photo. À ce moment-là, il y a un journal juif de Londres qui a repris cette information, bien sûr, qui était vraiment prise comme un scoop et une grande découverte. Mais ça a été également une très bonne découverte pour les révisionnistes ou les négationnistes qui ont dit « Haha, vous voyez, encore un qui en a réchappé. » Finalement, si on met bout à bout tous ceux qui ont réchappé, le génocide n'a pas été si violent que cela. Le problème, c'est que cette revendication-là ne tient pas, puisque l'homme en question se décrit comme étant le petit garçon et qui ne portait pas de chaussettes au moment de son arrestation. Or, la photo témoigne nettement qu'il porte des chaussettes assez longues. Voilà. Bon, je passe sur toutes ces questions d'identification de l'enfant, qui n'était pas d'ailleurs mon propos. Mon propos, c'était de travailler sur les usages et mes usages d'un cliché, d'un document d'histoire qui est devenu, au fil des années, une icône de la destruction des Juifs d'Europe. Alors, je passe à la première évocation publique. Après 1943, donc il y a la fin de la guerre, les deux exemplaires sont retrouvés de façon un petit peu chanceuse, par les Américains notamment. Et puis, donc, on évoque ce rapport et cet album Straub à Nuremberg en novembre 1945. Mais il faut remarquer ici que le rapport Straub et son album, eh bien, connaît une première inversion de sens radicale, puisque ce document nazi devient tout d'un coup, enfin pas tout d'un coup, mais enfin du fait de la victoire des Alliés, il devient un document à charge, un document d'accusation qui, donc là il s'agit plus de glorifier ce que les nazis ont fait en Europe, mais de condamner, d'accuser de crimes de guerre et contre l'humanité. Donc une première inversion de sens du document d'origine. Cependant, donc la photo, l'album est connu à Nuremberg. La photo est même décrite sans être montrée. C'est important à noter. Elle n'est pas montrée à Nuremberg. En revanche, dans la publication des procès-verbaux du tribunal en 20-25 volumes, en allemand, en français, en anglais, eh bien, on retrouve un album qui a été un extrait d'album qui est constitué à partir d'un certain nombre de clichés de l'album Straub. Et là, on retrouve effectivement la photo de l'enfant. Mais enfin, elle n'est pas plus que cela mise en avant. Elle n'est pas plus que cela commentée. Hein. Ce qui importait surtout à Nuremberg, c'était de pouvoir identifier des bourreaux, comme je l'ai fait pour deux ou trois d'entre eux, et de façon à mettre les gens en procès et pour les faire condamner. Ensuite, ce cliché, vous voyez, nous sommes en 1945, et bien ce cliché est devenu quasiment invisible. Il a disparu de notre espace, de l'espace public, si on peut dire. Un cliché quasiment invisible jusque dans les années 60. Oui. Alors, pourquoi un cliché invisible? Assez rapidement, et on y reviendra peut-être si on a le temps de discuter. Il faut savoir, enfin, vous savez, bien sûr, que après 1945, après la victoire des Alliés, et notamment en France, mais c'est vrai aussi dans d'autres pays, on a surtout enseigné, transmis une mémoire résistante, une mémoire héroïque de la guerre, une mémoire combattante, une mémoire patriotique. Et donc, on n'avait pas à ce moment-là pris, au point où on l'a aujourd'hui, pris conscience de la spécificité de la destruction des Juifs d'Europe. On parle dans certains ouvrages de la prégnance du mythe résistentialiste, gaullo-communiste pour ce qui concerne la France, ce qui signifie non pas que la résistance était un mythe, mais que on mettait en avant essentiellement les héros combattants et notamment les déportés combattants aux dépens des autres victimes de la guerre et notamment les victimes de la déportation raciale. Et durant cette période, donc, qui 20-30 ans qui suivent la Deuxième Guerre mondiale, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, on utilise d'autres photos de l'album Straub, ce qui montre bien que les historiens qui travaillent ont accès à ce document, mais qu'ils voient la photo de l'enfant, sans doute, parce qu'ils feuillettent tout l'album pour faire leur sélection de documents, mais il ne s'attache pas à la photo de l'enfant à ce moment-là, il s'attache uniquement à des photos de combattants ou qui marquent le combat. Voilà un certain nombre d'exemples, avec là aussi un certain nombre de, comment dire, une sorte de nonchalance dans l'utilisation du document, puisque on s'aperçoit que on inverse le négatif par rapport à l'original. On fait des différents cadrages, on fait des zooms, on expulse du cliché, du cadre, un certain nombre de personnages. Bref, il y a toute une manipulation des clichés qui s'effectue. Et donc, c'est l'occasion de voir à quel point, ici, certains historiens, des infographistes, comme on les appelle aussi aujourd'hui, ou des éditeurs, sont assez peu respectueux des documents qu'ils mobilisent pour leurs propos. En voici un exemple tout à fait stupéfiant, puisqu'il s'agit d'un grand auteur, Henri Michel, grand spécialiste de l'histoire de la résistance en France, c'est un pionnier de cette histoire. Eh bien, pour le livre qu'il publie en 1984, et Varsovie fut détruite, il utilise un cliché de l'album Straub, considérablement recadré, zoomé sur deux Allemands qui viennent de mettre le feu à un quartier, une photo qui est issue donc de l'album Straub, la photo 13. On voit qu'il y a un recadrage donc extrêmement sévère, mais surtout il y a un détournement de sens, un détournement d'un document qui concerne la liquidation du ghetto de Varsovie. Or, le propos d'Henri Michel dans ce livre n'est pas du tout la liquidation du ghetto de Varsovie, mais la deuxième révolte de Varsovie, la Varsovie arienne, si je puis dire, de 1944. Vous savez, cette histoire, les Varsoviens, voyant l'armée russe de l'autre côté de la Vistule, se disent « bon, c'est le moment de se libérer et de remettre un bon coup pour virer les Allemands ». Or, les Russes vont attendre que les Allemands détruisent les Varsoviens et Varsovie, ce qui fut fait. Donc ici, nous avons affaire à un détournement de sens tout à fait important. Donc on voit ici qu'on peut produire du faux avec du vrai, ce qui est assez fréquent finalement en histoire. Et j'ai trouvé par exemple l'utilisation du cliché de l'enfant dans certains manuels d'histoire avec des légendes totalement erronées, des dates totalement erronées. Autre exemple, voilà ici avec un léger recadrage du cliché. Effectivement, pour évoquer une insurrection armée, notamment celle du ghetto de Varsovie, la photo de l'enfant n'est pas la plus appropriée, parce qu'on n'a pas affaire à une opération de guerre, on a affaire à, ben on ne sait pas bien à quoi, peut-être à une expulsion, je sais pas, de squatteurs dans le quartier du Marais à Paris, enfin, je transpose plutôt, mais à côté de la photo de l'incendie avec ces SS qui reviennent d'avoir mis le feu à cet immeuble. Bon, là, on a affaire à une opération qui renvoie davantage à la guerre. On a des soldats et des destructions qu'ils produisent. Là encore, un autre usage d'une photo de l'album Straub avec un recadrage, là aussi assez sévère. Il y a une petite inflexion en ce sens qu'on a affaire aux mémoires du ghetto de Varsovie d'un des chefs de l'insurrection, Marek Edelman. On voit plutôt des civils plutôt que des combattants juifs. On a surtout cette petite fille au premier rang. Ce qui pose d'ailleurs une autre question, c'est pourquoi c'est un petit garçon et ce petit garçon-là qui est devenu une icône et pas cette petite fille qui est... Bon. Peut-être, je pense qu'elle aurait pu faire l'affaire, mais bon, elle n'a pas fait l'affaire, visiblement. Bon, malgré tout cela, ce cliché finit par s'imposer progressivement à partir des années 70. Je vais vous montrer un certain nombre d'autres occurrences. Et plus encore, à partir des années 90-2000, là où on a véritablement une accélération, me semble-t-il, qui s'explique de plusieurs manières, et puis je ne serai pas exhaustif parce que je n'ai pas le temps, mais je note tout d'abord un recul de ce qu'on a appelé le mythe résistentialiste, c'est-à-dire que il y a d'autres voix qui ont réussi à s'exprimer, à percer la chape déposée par De Gaulle et les communistes au lendemain de la guerre. Vous savez que pour De Gaulle, la France s'est libérée toute seule, donc ça a un petit peu plombé, je dirais, le discours dans les années qui suivent. À partir des années 70, bon, ben, De Gaulle n'est plus là, donc il y a aussi un dégel, je dirais, de la mémoire à partir de la disparition de De Gaulle. L'emprise également du Parti communiste au plan politique et idéologique eh bien diminue dans les années 70 et ne fait que décroître jusqu'à nos jours. Surtout, je pense qu'il y a à partir des années 70, bon, on peut faire partir ça du procès Eichmann en 61 à Jérusalem, mais bon, les retombées, on les voit surtout apparaître dans les années 70. C'est une prise de conscience générale et dans de très nombreux pays, notamment en Occident, d'une part de l'ampleur de la destruction des Juifs d'Europe, et puis de la spécificité de l'histoire des Juifs d'Europe et du génocide. À cela, on peut ajouter aussi un contexte politique, géopolitique, tout à fait particulier, avec les menaces qui semblent peser régulièrement sur l'existence de l'État d'Israël, qui est, c'est la guerre de 1967, où la crainte de voir le jeune État juif submergé par les armées arabes a été mise en avant, notamment par les dirigeants israéliens de l'époque. Et donc, ça a été repris abondamment dans la presse, notamment américaine. Et on trouve des évocations du génocide. Et on se demande à ce moment-là, en tout cas, on feint pour certains de se demander si on ne craint pas un nouveau génocide ou la fin du génocide commencé par Hitler. Au Proche-Orient. Et puis ensuite, il y a la guerre de 73, où là, pour le coup, Israël a bien failli perdre la première guerre ça a failli être la première défaite de son histoire. Et on sait que s'il y a défaite, ça peut être la dernière. Donc en 73, il y a eu une vraie peur, notamment dans les communautés juives occidentales, notamment françaises, mais aussi américaines, que Israël disparaisse. Et donc tout ça, ça a fait rejouer, je dirais, les mémoires du génocide et activer une prise de conscience. Et puis, cela coïncide également dans les années 60 et 70 à une prise de conscience, ou plutôt à un nouveau regard porté sur ce qu'on pourrait appeler les minorités et les victimes innocentes de l'histoire. Je veux parler des enfants particulièrement, mais c'est aussi concomitant avec les luttes contre la guerre du Vietnam. Souvenez-vous de cette petite fille brûlée au napalm par les avions sud-vietnamiens et qui courent sur une route encadrée de GIs qui savent pas quoi faire, où aller. Cette petite fille, sa photo a fait le tour du monde également et a créé une profonde émotion. Certains vont même jusqu'à dire que cette photo a fait perdre la guerre, en tout cas a fait lâcher les Américains, l'opinion publique américaine. Donc on voit qu'il y a un nouveau cours dans l'opinion occidentale qui porte un regard beaucoup plus attentif au sort des enfants, et cela prépare le terrain pour l'avènement de l'icône du génocide qui est devenu le petit enfant de Varsovie. Et puis bon, on peut aussi raccrocher cela avec le combat des féministes aux États-Unis et puis ensuite dans les autres pays occidentaux. Plusieurs traces dans l'édition de ce glissement. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il s'agit du même ouvrage, exactement du même contenu au mot près. Simplement, l'édition à 10 ans près. Le même ouvrage. Il s'agit donc du ghetto de Varsovie, de la bataille du ghetto de Varsovie. C'est un combattant qui parle. En 1993... on avait senti déjà un premier glissement, mais enfin on a quand même sur fond d'incendie, la fumée noire, on a ce soldat allemand armé qui encadre des civils, qui lève les bras pour certains. Eh bien en 2002, pour le même ouvrage, on peut se passer de la référence au combat et à la bataille, et on a zoomé uniquement sur le petit garçon. On voit encore un bout du canon de la mitraillette du SS, mais tout le reste a disparu. Quelqu'un qui n'a jamais vu cette photo ne peut pas dire où ça se passe, quand ça se passe. Un autre exemple, bon, ça a été un petit peu coupé, c'est le fameux ouvrage d'Anne Viviorca, L'ère du témoin, publié en 1998, deux couvertures, à quelques années près. Eh bien, en 2002, c'est assez intéressant de voir l'utilisation qui est faite de l'image du petit garçon. Zoom, recadrage et surtout colorisation du petit garçon, comme l'avait fait Spielberg pour une petite fille, souvenez-vous, dans la liste de Schindler. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce procédé de colorisation de certains personnages qu'on veut mettre plus en valeur sur des photos en noir et blanc ou en bistre, eh bien, on la trouve aussi dans des musées d'histoire. Il y a le même procédé qui plaît bien, voilà, visiblement. Hein. Le cliché donc s'impose également dans les manuels scolaires. Je pense que tout le monde en a vu. Bon, là aussi, une inversion négative. Dans un livre d'histoire, peut-être qu'on pourrait se dispenser de faire des inversions négatives et de respecter le document original. Vous voyez que sur l'ouvrage scolaire de 98, bien sûr, il y a recadrage. Surtout, on fait disparaître la petite fille qui est à gauche. Encore une fois, on centre, on zoome sur le petit garçon. Alors, bien sûr, c'est tentant et... Alors, j'ai fait une expérience avec des étudiants, presque chaque année, je leur montre cette photo et je leur demande de me répondre très vite qu'est-ce qu'ils voient en premier, c'est-à-dire en fait vers quoi leurs yeux se portent en premier. Alors, les garçons, généralement, voient soit les SS, soit le petit garçon, et les filles, enfin, les étudiantes voient surtout les mamans. C'est-à-dire qu'il y a une identification un peu différente, un peu sexuée, parce que le regard, bien sûr, est sexué, le regard est éduqué, et c'est intéressant de voir cela. Alors, ça voudrait dire peut-être que ceux qui font les manuels scolaires ou ceux qui choisissent ces documents sont plutôt des hommes. Enfin bon, il faudrait vérifier, bien sûr. Un autre cas, alors un petit peu plus ancien, ce livre, qui est une traduction d'un livre allemand, qui lui aussi est tout à fait déroutant parce que, bon, le coupable, vous voyez, il est représenté ici par un SS, qui est aussi un bon père de famille, mais la victime, elle, est représentée par le petit garçon juif de Varsovie, qui est totalement séparé cette fois de son contexte, de son histoire personnelle. Qui peut dire d'ailleurs s'il est juif. D'autres cas plus récents, assez préoccupants aussi à mon sens. L'usage qui est fait dans un magazine comme l'Histoire, qui est un magazine de très bonne tenue scientifique, auquel collaborent de nombreux universitaires, de nombreux chercheurs, qui est beaucoup lu dans le milieu universitaire, dans le milieu étudiant et puis dans le milieu enseignant. Ici, on a cette photo, à nouveau, un recadrage zoomé, complètement centré sur le petit garçon, avec un titre qui laisse songeur, puisque on quitte l'histoire du génocide, de la Seconde Guerre mondiale, du ghetto de Varsovie, pour illustrer un dossier sur l'antisémitisme, du judaïsme antique au conflit israélo-arabe, c'est-à-dire qu'en fait, on a ici une mobilisation de ce cliché dans un autre contexte historique, voire politique, puisqu'il s'agit d'inscrire ce cliché et d'inscrire l'histoire de la Shoah dans l'histoire également contemporaine et très contemporaine, israélo-arabe ou israélo-palestinienne. 43, il n'y a rien. 44. 2005, janvier 2005, vous vous souvenez peut-être, c'est pas si vieux, on a célébré abondamment, dans la presse notamment, à la télévision, on a célébré la libération du camp d'Auschwitz, qui survient en janvier. Les clés de l'actualité, pourquoi j'ai choisi de vous montrer ce cliché ? Eh bien parce que d'abord on retrouve notre petit garçon, mais surtout c'est que les clés de l'actualité, c'est un journal, un magazine qui est destiné aux collégiens, aux adolescents, aux jeunes adolescents. Mes enfants étaient abonnés, donc j'ai le numéro chez moi, et j'étais très frappé parce que regardez la photo, comment elle est composée. C'est vraiment une composition. 60e anniversaire de la libération des camps. Bon, tout laisse à penser que ce petit garçon n'a pas été libéré des camps, mais qu'il est mort à Treblinka quelques heures après avoir été arrêté, comme on le voit sur la photo, puisque la plupart des habitants qui n'ont pas été brûlés ou assassinés dans le ghetto en avril-mai ont été déportés à Treblinka, qui se trouve à quelques kilomètres de Varsovie. Premier problème. Deuxième problème, on a évidemment le fameux recadrage que l'on voit très souvent. Il y a un effet de colorisation avec ces bandes bleutées qui renvoient à la fois au monde carcéral du camp de concentration, mais aussi au pyjama rayé des prisonniers. Bon, la petite fille à gauche a disparu. Le SS qui tient en joue le petit garçon a lui-même disparu à droite. Bref, c'est assez préoccupant que un tel document soit utilisé de cette manière-là dans des publications pour des enfants. L'enfant devient un pur levier émotionnel, je dirais, pour susciter, pour attirer l'attention et faire des ventes. Voici un autre cas qui est tout à fait stupéfiant. Il s'agit des peintures d'un... C'est pas très net, je sais pas pourquoi. Bon, c'est pas grave. Vous voyez de quoi il s'agit. En fait, ce sont des peintures d'un juif issu du ghetto je crois que c'est le ghetto de Riga, non pas de Riga, de Vilnius, voilà, je cherchais, en Lituanie, qui a réchappé, il était enfant pendant la guerre, il a réchappé d'extrême justesse à la liquidation du ghetto de Vilnius. Il est réfugié maintenant aux États-Unis, et depuis 1995, c'est important aussi, 1995, eh bien, il ne cesse de peindre des tableaux inspirés par cet enfant. Et j'en connais au moins une centaine à ce jour. Hein? Alors je passe. Voici un autre usage ou mésusage du cliché, où l'on voit dans une série de caricatures inscrites dans le conflit israélo-palestinien, cette caricature d'un dessinateur vénézuélien, Latouf, ou Latuf, avec qui j'ai eu un cours, deux échanges par mail, mais après ça s'est arrêté brutalement. Quand je lui ai demandé qu'est-ce qu'il répondait à ses détracteurs qui le traitaient d'antisémite, et là il n'a pas répondu. Bon, en tout cas pour un regard occidental qui a l'habitude de voir ce cliché, cet enfant, cette caricature nous fait penser immédiatement, me semble-t-il, je ne pense pas exagérer, il nous fait penser à cette photo de l'enfant juif de Varsovie. Et vous voyez que cet enfant juif de Varsovie, eh bien, il crie « Je suis palestinien ». Donc il y a ici tout à fait un glissement de sens, voire un retournement du sens initial. Et puis alors là, je terminerai juste là-dessus, ne vous inquiétez pas. Voici, on part donc du cliché du petit garçon qui tient dans sa main une photographie d'un enfant palestinien qui a dû balancer une pierre. Bref, il se fait arrêter par les gardes israéliens. Il a tellement peur qu'il fait pipi dans son pantalon. Bref, il est effrayé. Seulement lui-même, eh bien, il tient dans la main une petite photo. C'est la photo du petit garçon. Et donc, on a à nouveau une transposition de ce qui s'est passé en 1943 à ce qui se passe aujourd'hui en Palestine et dans les territoires occupés par l'État d'Israël. Alors, je ne porte pas de jugement, encore que je pourrais en porter, mais si vous voulez, mon propos, c'est de me demander, parce que nous avons tout de même affaire à un document me semble-t-il, exceptionnel, qui est porteur d'un message, pas simplement émotionnel, mais un message qui nous apporte une connaissance de ce que fut le nazisme, de ce que fut le génocide, qui s'en prenait aux familles, qui s'en prenait aux enfants, au nom de l'idéologie. Et la question, enfin l'interrogation, ou plutôt l'angoisse qui clôt ce travail, c'est de se demander jusqu'où on va aller dans la manipulation, l'instrumentalisation, la mobilisation de ce cliché, et ce que ça peut provoquer au cliché lui-même, au document d'histoire. Voilà, j'arrête là. Merci.
Merci beaucoup. Je crois que c'était l'occasion d'avoir une autre approche de ce qu'on peut lire dans une image, très très différente de celle proposée par Laurent Grison, un aspect complètement différent, et c'était vraiment l'objectif de cette matinée, de questionner les manières de lire des images.
Donc une première question, Eliane Burnet.
Alors, une question de détail, mais j'ai été frappée par le... J'ai cru, la première fois que vous avez montré l'image reproduisant au plus près possible l'image de l'album photo, de l'étirement de l'enfant. Parce que en fait, on voit très souvent, dans les reproductions, on voit un écrasement par rapport à cette photo. Est-ce que vous avez une interprétation de ça? D'abord, est-ce que ce que j'ai vu est réel? Et d'abord, parce que c'est frappant, si vous mettez la dernière photo que vous avez montrée, on voit un enfant très maigre, et on peut comprendre pourquoi, très étiré, alors que la plupart du temps, on a un enfant qui est beaucoup plus massif et écrasé.
Ben, je serais tenté de vous dire que... l'image que l'on a en tête, généralement, effectivement, c'est une image écrasée parce qu'elle est profondément zoomée sur l'enfant. Quand on a la photo dans son entièreté, si je puis dire, eh bien, puisqu'il est tout devant. Il est tout devant, et donc si vous donnez du champ et si vous réintégrez tous les personnages qui sont en plus bien plus grands que lui, etc., eh bien oui, vous réétirez la photographie. Donc ça peut s'expliquer un petit peu par cette raison-là. Je ne sais pas si j'ai bien répondu en fait à votre question. Peut-être j'ai pas la réponse, tout simplement, monsieur.
Au vu de toutes les images que vous avez fait se succéder, il semble que, et peut-être à travers les manipulations qui en sont faites, peut-être aussi du fait de vos sources, je n'en sais rien, je pense qu'il y avait beaucoup de déformations qui pouvaient être dues à ces manipulations numériques ou autres, mais ouais. Pas seulement sur ce personnage-là, ça concernait aussi les autres photos.
Ben voilà un exemple... où on a à la fois du recadrage, on a à la fois aussi du tassement, parce que les personnages sont extraits de leur environnement. Hein, on a toutes. Bon, celle-ci est assez proche du cliché original. Du cliché original, pas de celui que l'on connaît, mais celui-là est assez proche. Bon, celui-là est complètement décontextualisé. Celui-là est assez proche, mais le problème, c'est qu'il est tellement resserré, eh bien, il grandit, le petit garçon. C'est un effet visuel, mais le cliché n'est pas trafiqué ici. Bon, sur cette photo-là, il est à peu près correct. Bon, là, il n'est pas comparé, donc... Évidemment, tous les clichés qui zooment sur l'enfant, le grandissent, et moins il y a d'environnement, et plus il est grand. Bon, en même temps, ça ne change pas tellement l'idée qu'on a effectivement affaire à un enfant. Hein.
Je vais prendre deux questions à la suite pour permettre de... puisque j'ai vu donc ici...
Je voudrais simplement dire que moi, ça ne me gêne pas qu'on transforme les images.
parce que les cadrages un peu serrés peuvent faire voir des choses qu'on n'a pas vues sur le cliché initial, d'une part. D'autre part, la première grande altération, c'est quand même que la vision du général en question, enfin de celui qui a fait les photos, avait quand même une idéologie passablement détestable. Donc montrait les victimes comme des déchets, comme c'est indiqué dans les légendes.
Comme des bandits.
Donc, ce point de vue qui est manifeste, et donc quand on voit le petit garçon, on voit qu'il est lui aussi, enfin de cette idéologie, il est vu comme une sorte de déchet.
À détruire.
Et d'une certaine façon, il a été repris sur une charge émotionnelle. Enfin, il a été complètement altéré, même si on a gardé les formats de l'image. Donc, quelquefois, le fait de voir davantage, de zoomer sur les photos, ne m'a pas gêné particulièrement. Donc, je voulais soulever ce problème.
Alors, je prends une autre question qui rejoint en plus. Donc.
Est-ce que vous estimez que certaines images ne doivent pas être retouchées? Enfin, certaines images doivent rester dans leur entièreté, dans leur suivant le statut, suivant la manière dont elles sont utilisées, parce que sinon elles sont absolument dégradées. Voilà, c'est une question.
Alors, je ne suis pas un fétichiste du document. La question que je me pose, c'est jusqu'où on peut aller pour que le document original conserve sa portée, son sens initial. Je reconnais tout à fait le droit à chacun de retoucher, de zoomer, de cadrer, de couper, de rajouter. C'est pas mon problème. Simplement, en tant qu'historien, nous historiens, qu'est-ce que l'on fait avec un document d'histoire? Et en plus, c'est pas n'importe quel document. Voilà, c'est en ce sens-là que je faisais ma remarque sur les zooms. Quand Henri Michel illustre son ouvrage sur la révolte de Varsovie 1944 par une photo émanant de la révolte du ghetto de Varsovie 43, du ghetto juif de Varsovie 43, il me semble qu'il y a un problème. Maintenant, bon. Oui, enfin bon, je pense que c'est plus de la nonchalance. Et moi, je peux témoigner aussi à quel point dans les facultés d'histoire on n'est pas formé, et moi-même je n'ai pas été formé à user de l'image. On commence un petit peu à s'y intéresser, mais on est très en retard de ce point de vue-là. Et donc, quelque part, bon, ça me révolte, mais je comprends que, bon, dans les années 80, eh bien, il n'y avait pas eu toute cette réflexion sur l'usage de l'iconographie, et que, ben, on fait un peu n'importe quoi. Que quelqu'un comme Annette Vivorca laisse passer ça, je dis pas que c'est elle qui l'a fait. Sans doute, bon, moi, j'ai pas fait mes couvertures, hein. Personne fait ses couvertures. C'est un infographiste qui est payé pour ça, il fait ça à la chaîne. Quel que soit le sujet,
justement, en fait, c'était.
Mais j'allais poser une question. Annette Vivorca, à mon sens, quand même, on doit lui demander son autorisation. Enfin, qu'est-ce que vous pensez de la couverture qu'on a préparée pour vous?
Est-ce le cas réellement? C'est-à-dire que Madame parlait d'imposture pour Henri Michel. Je trouve que c'est tout à fait exagéré parce que quelle est la part de l'éditeur?
Oui.
Quelle est la part du graphiste dans le magazine L'Histoire? Enfin, est-ce que les scientifiques, les historiens ont été consultés? Probablement pas. Même Henri Michel, chez Albin Michel, je présume que
ce n'est pas moins très grave, parce que si les infographistes donnent le sens à nos documents, ben il est temps de changer d'infographiste.
Oui, certes, mais ce n'est pas l'historien qui est en cause, mais l'éditeur en l'occurrence.
Si, l'historien est aussi en cause parce qu'il met son nom sur la couverture. L'historien, il a une responsabilité, je crois. Chacun qui publie un bouquin, on lui demande, enfin, l'éditeur demande à l'auteur, tiens, voilà, on vous a préparé quelques couvertures, qu'est-ce que vous en pensez?
Oui.
Si vraiment il y a un gros problème, je pense que ça peut être discuté. Oui. Et Annette Vivorca, franchement, elle allait le dos assez large pour dire à son éditeur, écoutez, là, il y a un problème. L'autorité Shoah, donc.
Je vais prendre, il y a trois questions. Alors bon, je suis ravie, Frédéric, parce que je ne t'ai pas présenté, mais je dis, mais c'est un historien qui va venir, qui va démontrer sa démarche d'historien. Et moi, je suis ravie alors, parce que justement, l'idée, c'était de croiser des disciplines et un historien avec c'est une autre démarche. Je vois que ça suscite beaucoup de questions, donc ça montre qu'on s'est pas trop planté finalement quand on a imaginé la journée. Il y a 3 questions à la suite, voilà, donc je donne la parole et comme ça tu pourras répondre plus globalement.
Alors, d'abord merci Frédéric Rousseau, parce que j'étais très intéressé par votre intervention. Vous avez questionné l'usage d'un document photographique culte, une icône, dans la presse et dans l'édition. Est-ce que vous avez fait le même travail pour ce cliché, pour son usage dans les films documentaires ?
Oui.
Qu'est-ce que ça donne ?
À peu près la même chose. C'est-à-dire que, enfin, ça donne la même chose en termes de périodisation. C'est-à-dire qu'il y a une première. Enfin, moi, j'ai tout. Bon, je suis loin d'avoir tout vu, tout. Je ne connais pas tout, sans doute, mais la première occurrence que j'ai trouvée dans le film documentaire, c'est Nuit et brouillard. Alors là, c'est intéressant aussi, parce que dans Nuit et brouillard, il n'est quasiment pas question des déportés juifs, à l'exception d'une toute petite mention, comme il y a une petite Annette. Je ne sais pas si c'est... Enfin bon, une petite Annette, et elle n'a pas de nom, qui est lycéenne, je crois, à Bordeaux, je crois me souvenir, et qui va être montée dans un train à destination d'un camp. C'est quasiment la seule mention. Mais au moment où on voit, enfin, l'on parle, le commentateur dit la petite Annette de lycéenne à Bordeaux va monter dans le train pour aller je ne sais où, à ce moment-là, on voit la photo de l'enfant juif de Varsovie. Et ensuite, vous pouvez relire, repasser Nuit et brouillard, il n'est jamais question du génocide. Parce que nous sommes dans la milieu des années 50. C'est un film qui a encore, je crois, qui est encore sous l'emprise de cette image, cette représentation de la lutte contre le nazisme, qui a été d'abord une lutte de résistance armée. Voilà. Oui, bien sûr. Mais il y a d'autres documentaires qui ont utilisé cette photographie. Je les ai plus en tête ici, mais ils sont cités dans le livre. Et j'ai fait une étude plus récemment, qui n'est pas dans le livre, qui est parue dans la revue Auschwitz, la revue de la Fondation Auschwitz de Bruxelles, dont on a vu un dernier numéro. Et là, j'ai travaillé sur un film de Bergman. Bon, bien sûr, j'ai oublié le nom.
L'œil du serpent ?
Non, c'est pas l'œil du serpent. C'est l'histoire. Attends, comment il s'appelle ce film ?
Silence.
Non. Bon, ça va me revenir. J'ai un petit trou, je me suis levé trop tôt ce matin. Persona. Persona. Dans Persona, vous avez le personnage de un des deux personnages féminins qui trouve sur sa table de nuit ce cliché qui, à un moment donné du film, qui est un film hyper lent, enfin bon, Bergman, quoi. Et la femme qui a des problèmes psychologiques graves. D'abord, elle est très émue de voir à la télévision des images de la guerre du Vietnam. Bon, c'est toujours, vous voyez, il y a toujours des renvois comme cela. Et à un moment donné, elle voit la photo. Et alors, Bergman, il fait quelque chose que même les historiens n'ont jamais osé faire. Mais lui, il se le permet. Il recadre pratiquement chaque personnage. C'est-à-dire qu'il décompose toute la photo, personnage par personnage. Ce qui nous permet de dire, et ça dure, c'est très long. C'est du Bergman, ça dure une minute sur cette photographie. Une minute, je ne sais pas si vous savez, mais en cinéma, c'est extrêmement long. Un plan où l'on passe d'un personnage à l'autre. Toc, toc, toc. Et là, on s'aperçoit à quel point, là, finalement, la montée en icône de ce petit garçon, elle ne s'imposait pas forcément d'elle-même. Y a notamment une longue focale sur la petite fille qui est à ses côtés, ben elle aurait pu, elle aussi, faire l'affaire. Mais dans le livre, je m'interroge aussi, pourquoi l'image d'Anne Frank n'est... Bon, tout le monde connaît le visage d'Anne Frank. Simplement, il ne peut pas renvoyer à ce qui s'est passé en Europe. Bien sûr, elle est juive, mais elle n'est pas photographiée, en tout cas les photos dont on dispose d'elle, ne la montre pas en train d'être arrêtés, montés dans un train, dans un camp, etc. Oui, c'est pas des photos de victimes. Au contraire, on a des photos d'une petite fille, comme toutes les petites filles, je dirais. Et c'est d'ailleurs ce qui a fait son succès au lendemain de la guerre, parce qu'on n'est pas dans la victimisation qui, d'un certain côté, est devenue un peu outrancière aujourd'hui, où tout le monde se sent victime de quelqu'un ou de quelque chose. Mais après la Deuxième Guerre mondiale, aux États-Unis notamment, ben, cette petite fille juive allemande réfugiée en Hollande, eh bien, plaît. Elle plaît. Elle parle bien. Mais aujourd'hui, c'est pas son image qu'on retrouve dans les musées. C'est la photo du petit garçon.
Oui, alors c'est pas exactement une question, c'est peut-être une réaction, voire deux réactions. La première, plutôt au sujet du débat qui a commencé à s'instaurer sur cette problématique de la déontologie qu'on doit ou pas avoir vis-à-vis des images, et en particulier quand on les utilise comme documents. C'est peut-être un rappel, et là je m'excuserai auprès de Laurent Grison de réutiliser une fois de plus le nom de Georges Lieberman. Il se trouve qu'il a écrit, suite à l'exposition, je crois, de 2002, qui avait lieu à Paris sur les photos de la Shoah, et en réaction à une polémique qui avait été faite à son texte, un ouvrage qui s'appelle « Images malgré tout », qui est fondé sur une réflexion très très approfondie et très pédagogique, on pourra dire, sur des images encore autrement plus graves du point de vue du tragique de l'histoire, qui sont celles des membres des Sonderkommando en train d'alimenter en fait ou de sortir les cadavres des chambres à gaz. Enfin bon, pas besoin de préciser beaucoup plus. Enfin, je renvoie tout le monde à cet ouvrage-là qui nous donne une leçon par rapport et qui donne une leçon qui se permet de donner une leçon à certains historiens d'ailleurs pour le coup sur ces problématiques-là. L'autre réaction que j'avais, quand vous avez abordé présenté votre sujet, j'ai immédiatement pensé à une autre image, et c'est peut-être un écho plus subliminal de l'iconisation, de l'effet d'iconisation de cet enfant juif de Varsovie. Je ne sais pas si je suis le seul, je ne pense pas à opérer ce rapprochement. Il s'agit d'une évocation que je voudrais faire du film de Jean-Luc Godard qui s'appelle JLG par JLG, Autoportrait de décembre, qui est à charnière des années 80-90, je crois, je ne sais plus la date exacte, dans lequel il montre un agrandissement au contour un petit peu flou d'ailleurs de lui-même petit garçon. C'est presque une image en noir et blanc, enfin sans modulation, sans grisé, et qui, je dirais de façon subliminale, donc, semble placer l'individu Godard et l'individu Godard enfant, avec ce qu'il dit d'ailleurs, ce qui accompagne cette image des propos qu'il a sur sa propre enfance, dans une espèce de posture en résonance avec cette image-là. Voilà.
Mais vous tapez tout à fait juste, parce que Godard s'est exprimé là-dessus, et il a fait même un autre film où il montre, il fait un montage de plein d'autres films, une histoire du cinéma gigantesque, et dans laquelle on voit apparaître à un moment donné cette photographie, où on voit en surimpression une femme habillée une grande robe blanche et qui descend un escalier, et derrière il y a la photo de cet enfant juif de Varsovie, et Godard a témoigné là-dessus, et effectivement il s'identifie fortement à cet enfant-là. Oui, c'est vrai.
Bien. Alors donc j'ai la dernière question, c'est ça? Alors une remarque d'abord, c'est intéressant, je crois qu'il y a 4 profs d'art plastique qui ont réagi, donc on voit bien que dans le pluridisciplinaire là, il y a un frottement histoire-art plastique et puis Laurent Grison qui s'occupe d'histoire de l'art, donc on voit bien là qu'il y a un frottement très fort à ce niveau-là. Voilà, ça c'est une remarque.
Un frottement, vous voulez dire quoi?
Je pense qu'il y a un frottement épistémologique, voilà, dans le rapport aux images. D'accord. Alors, moi j'ai apprécié beaucoup votre exposé, parce que je crois qu'il repose sur une question légitime. C'est comment une image devient une icône, faire l'histoire d'une iconisation, statut d'icône. Et cette image va excéder évidemment son contexte historique, ce qu'elle raconte, et elle va être détournée, contresens, réutilisée, on pourrait... Alors, elle résiste encore, mais pourquoi pas dans une publicité? Enfin, je veux dire, on va pouvoir peut-être la trouver dans des tas de contextes. Donc ça, on connaît ce processus aussi, mais je crois qu'il faut le décrire très précisément pour le comprendre, avec des photos de Kappa, avec la photo d'Ossine, la Madone algérienne d'Ossine, et on voit bien ça dans tout le travail autour du photoreportage, et comment des images d'un coup se retrouvent à la une. Je pense à Haïti récemment, il y a donc une image d'une Haïtienne sortant des ruines, poudrée de blanc, et qui renvoie en écho subliminal aux images du 11 septembre, avec une femme afro-américaine, elle aussi poudrée de blanc. Donc on a comme ça une circulation d'icônes très très forte, qui, on ne sait pas pourquoi, irrationnellement, se retrouve à la tête de tous les journaux, par exemple. Donc là, je crois qu'il y a un processus, vraiment pour les historiens et les plasticiens et toutes les disciplines, il faut s'en saisir. Et sur l'exposé, plus précisément, alors, plusieurs choses. Mettre en parallèle des œuvres d'art et des images réutilisées dans un contexte d'ouvrage historique, je pense qu'il faut faire attention, parce que le but de l'artiste ou le contexte de production de l'artiste n'est pas le même que la production de l'historien. Je pense qu'il y a, là, il faut discuter sur ça. Comparer Nuit et brouillard à Bergman, là aussi, ça se discute. Nuit et brouillard se présente comme un documentaire, Bergman comme une fiction. Donc on peut s'interroger sur comment il utilise cette image, c'est légitime, mais c'est dans un contexte artistique.
Bien sûr.
Qui donc modifie, à mon avis, la procédure de réutilisation. Et puis, dernière question, là c'est aux historiens à voir ça, c'est est-ce que le paratexte du texte d'histoire, donc couverture, quatrième de couve, carnet d'illustration à l'intérieur, est encore un travail d'historien ? Ça c'est la difficulté, et les sociologues se posent cette question, c'est le statut de l'image dans les sciences humaines. Le statut des images est dans les publications. Donc je crois qu'il y a un vrai débat à avoir effectivement là-dessus, sur l'affichage éditorial, fait-il partie du travail d'historien ou pas, dans tous les supports de production d'histoire. Voilà.
Ben, je réponds très brièvement, oui. juste une remarque pour terminer. Si le petit garçon a eu... ce statut d'icône, c'est aussi peut-être que dans nos sociétés occidentales, sa position, ça renvoie aussi à une autre image, celle du Christ en croix. Et même un peintre comme Samuel Bach, le rescapé de Vinus, eh bien, le voit comme cela également, hein, comme un nouveau Christ ou un petit Christ. Détruit en 43. Voilà, merci.